Les manettes à la baguette sur RCN. Yoann Turpin.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Souvenez-vous un peu. La saison dernière, j'avais fait un épisode spécial vilain qui faisait suite à celui sur les héros. Et dans cet épisode archétypal, j'avais évoqué quelques monstres, mais je n'ai pas traité spécialement des monstres. Et oui, la monstruosité ne veut pas dire forcément méchanceté. Remarquez, dans l'épisode sur les vilains, nous avions deux hommes devenus monstres. Qu'en est-il alors des monstres nés monstres ? Il en existe différentes formes et natures, dans différentes époques ou univers, sous différents formats. Bref, le terrain est inépuisable. Et il était grand temps que nous nous jetions un instant dedans. Je remercie par avance mon spécialiste personnel Guillaume T, qui m'a aidé à compléter la sélection que nous entendrons pendant cette heure. Bon, j'ai dit les monstres. Et pour cela, commençons donc par un Graal du jeu vidéo. Une mode planétaire, un raz-de-marée, que dis-je, un tsunami absolu qui date de 1996. Faisons une petite contraction. Je prends Pocket, soit de poche, et Monstre. Et si je les réunis, Pocket Monster, c'est le nom prototypal que vous connaissez tous, les Pokémon. Et oui, impossible d'y échapper depuis 27 ans. 9 générations de bestioles bigarrées et multiformes, 1021 espèces fictionnelles qui s'attrapent, se collectionnent, se combattent. Et je ne parle pas de tous les produits dérivés, films, séries animées, cartes à jouer ou à collectionner, peluches jouées, etc. Cette incroyable franchise créée par le génial Satoshi Tajiri a fait les plus belles heures des machines Nintendo, et autant dire que ce n'est pas fini. Tenter de vous résumer cette licence est un exercice difficile, mais pour faire simple et surtout pour ceux qui résumeraient les jeux Pokémon à une expression simple, voire idiote, sachez que le principe original n'est pas si crétin. En effet, Pokémon est un jeu tactique où il s'agit de réussir à attraper des créatures. Ces dernières ont beaucoup de paramètres différents, des types si vous préférez, et il faut posséder la meilleure équipe, la mieux entraînée, tout autant que la plus idéalement constituée, pour stratégiquement défaire vos adversaires dans des combats de Pokémon, afin de devenir le meilleur dresseur, comme le chante si bien le générique de la série française. La franchise Pokémon ne se borne pas à la simple collection, c'est bien parce qu'elle s'aborde sous différents angles, sans cesse revivifiée, qu'elle bat le pavé depuis pas mal d'années maintenant. Musicalement, je ne vois pas comment ne pas nous faire entendre ce générique de la série animée française qui a tenu en haleine des millions d'enfants téléspectateurs à la fin des années 90. On y suivait Sacha, le héros tiré de la première version du jeu sur Game Boy, Pokémon bleu et rouge en Europe pour les plus vieux qui s'en souviennent comme moi. Sacha et son fidèle Pikachu, le Pokémon qui représente un peu le symbole de toute cette licence. On doit la musique de cette série à Shinji Miyazaki et à Hirosaku Tanaka, la musique du générique. Pour la France, c'est le légendaire Jean-Marc Anthony Cabella qui nous chante ce qui va suivre. Ah, nostalgie quand tu nous tiens.
Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai.
Yeah.
Ah, Pokémon aura, on peut lui laisser cela, rendu populaire le genre de la chasse de créatures, donc de monstres. Et dans le domaine, il est un jeu qui a eu également son petit succès et qui musicalement mérite toute sa place dans cette émission. Il s'agit de Monster Hunter, soit Chasseur de Monstres, série Capcom de jeux vidéo démarrée en 2004 et dont la dernière itération date de 2022 avec Monster Hunter Rise Sunbreak. Le principe de cette série repose sur le principe du hack and slash, dont je n'ai pas encore parlé aux manettes à la baguette. On appelle aussi ce système le porte-monstre trésor ou PMT. En gros, très schématiquement, on ouvre une porte, on tue le monstre et on récupère le trésor. PMT. Dans Monster Hunter, le hack and slash est basé sur la coopération entre joueurs humains et ceux en ligne également. Le chasseur par ailleurs va écrire des composants sur les monstres chassés qui serviront ensuite à créer ou améliorer ses armes et à en créer de nouvelles. Monster Hunter premier du nom sortira en 2004, disais-je, des studios Capcom sur PlayStation 2, classé comme il se doit dans les actions RPG. Et ce seront deux compositeurs qui se chargeront de sa bande originale, Masato Kuda et Tetsuya Shibata. Ils opteront pour une musique orchestrale épique, pleine d'allant et d'héroïsme, accompagnée par des percussions et instruments tribaux pour souligner de dangereuses expéditions. L'exercice se révélera très efficace puisqu'ils émergeront encore dans les suites à venir dans cette licence qui gagnera un grand nombre de fans au fil des années. Tout de suite, nous écoutons le générique de Monster Hunter premier du nom. Bonne chasse! Laissons ici le jeu vidéo pour le moment et tournons-nous vers le film une fois encore avec Disney Pixar. Comment vous parler des monstres si je n'évoque pas Monstres et compagnie, Monster Inc. en anglais ? Décidément, les années 2000 seront des années monstrueuses qui poursuivent la mode avec ce long métrage d'animation, quatrième des studios Pixar, sorti en 2001 et réalisé par Pete Docter. Pete Docter qui a été nommé 8 fois aux Oscars avec 3 victoires pour Là-haut, Vice Versa et le très récent Soul, sous la coproduction naturellement de Walt Disney Pictures. Monstres et Compagnie nous parle d'un duo de monstres dans la ville des monstres, Monstropolis, qui, durant leur travail d'épouvante, vont faire la rencontre d'une petite humaine, qu'ils nommeront Boo, et qui va changer leur regard sur ce soi-disant travail qui est le leur. On assiste pendant 92 minutes à une très belle fable sur l'amitié, la peur et la différence, au travers d'un film qui ne manque pas d'une sérieuse intrigue grand public et qui marchera d'ailleurs si bien qu'un préquel sortira en 2013 avec Monstre Academy pour nous parler de la formation du duo monstrueux. C'est un habitué de Pixar avec Toy Story depuis Disney que l'on retrouve à la direction et à la composition en la personne du très talentueux et émouvant Randy Newman. Dans cette partition, on peut se délecter de tout son talent orchestral de musique, parfois de chambre, souvent aux accents jazz, le tout avec un sentiment profondément touchant qui participera, je pense, au but caché de ce film, ne plus avoir peur des monstres. Citons qu'il sera accompagné et secondé pour les orchestrations par Jonathan Sachs et Ira Hirschen. Or, pour cet épisode, j'ai choisi le titre principal du film « Si je ne t'avais pas » dans sa version anglaise chantée par les géniaux John Goodman et Billy Crystal qui interprètent respectivement Jack Sullivan et Bob Razowski en leur prêtant leur voix. Voici « If I didn't have you ».
If I were a rich man with a million or two, I'd live in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome,
no way,
it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing.
Something for years I have envied.
You green with it.
Your grace and your charm. Everyone loves you, you know.
Yes, I know, I know, I know.
But I must admit it, big guy, you always come through. I wouldn't have nothing if I didn't have you.
That's how it always should be. One without the other don't mean nothing to me. Nothing to me.
Yeah, I wouldn't be nothing.
No, no.
If I didn't have you to serve, I'm just a punky little eyeball and a funky optic nerve. Hey, I never told you this. Sometimes I get a little blue.
Looks good on you.
But I wouldn't have nothing if I didn't have you.
Let's dance.
Look, Ma, I'm dancing. Would you let me lead? Look at that, it's true. Big guys are lighting their feet. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Oh, I should have stretched.
Yes, I wouldn't be nothing if I didn't have you.
I know what you mean, Sully. Because
I wouldn't know where to go.
Me too, because I
wouldn't know what to do.
Why you keep singing my part?
I don't have to say it. I say it anyway.
'Cause we both know it's true.
I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have
you. One more time! And one!
I don't have to say it.
Where'd everybody come from?
'Cause we both know it's true.
Let's take it home, big guy!
I wouldn't have nothing.
I wouldn't have
nothing if I didn't have.
I wouldn't have
nothing if I didn't have
you.
You,
you,
E-E-I-O.
That means you.
Yeah.
Le 25 janvier 2018 s'éteignait un grand nom de la musique de film, de comédie et de film, John Leonard Morris, compositeur américain. Si je vous parle de cet émérite monsieur éteint à l'âge de 91 ans, c'est parce qu'il fut le compositeur de la bande originale du film Elephant Man, produit par Mel Brooks et réalisé par David Lynch. Son travail lui fait remporter l'Oscar de la meilleure musique de film en 1981. Quel meilleur film peut parler de la monstruosité dans toute sa profondeur qu'Elephant Man ? Tourné en noir et blanc, il est une adaptation romancée des mémoires de Frédéric Trèves, qui prit en charge Joseph Merrick, surnommé justement Elephant Man, du fait de ses nombreuses difformités ou éléphantiasis, pour reprendre le terme scientifique de l'époque. La musique de Morris emporte haut la main le complexe défi de traduire à la fois la vision sociale de la monstruosité dans toute son absurde hilarité ou compréhensible horreur, tout en y ajoutant la dimension intérieure du personnage principal à la recherche, si tant que cela est possible, de son humanité perdue. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti en entendant la bande originale du film que je vous conseille grandement. Pour l'heure, nous écouterons le thème principal de ce classique parmi les classiques, The Elephant Man.
Musique, jeux vidéo et numérique, les manettes à la baguette sur RCN.
Film toujours, avec ce plaisir non coupable que j'ai à aborder un de mes films de chevet. Je crois l'avoir tellement vu et revu qu'il me serait possible de vous réécrire la suite des plans de la main droite et les dialogues et intentions de jeu de la main gauche. Un cargo spatial, une mission commerciale de routine. Un équipage de 5 hommes, 2 femmes plongés en hibernation qu'interrompt souvent l'ordinateur de vol. Et pour cause, il a capté des signaux radio inconnus et du fait d'une clause qui stipule qu'on doit par contrat vérifier tout signal de vie extraterrestre, ce petit monde va se rendre au point d'origine de ce signal. La suite, vous la connaissez sûrement, car je viens de vous pitcher l'Incipit d'Alien, chef-d'œuvre de 1979, perle absolument indétrônable de science-fiction horrifique réalisée par Ridley Scott. Alien est la plus pure définition du monstre psychanalytique. Sa présence à l'écran est toujours horrible, rapide, brutale et insaisissable. Pas une seconde n'étant trop pour être et incarner ce qu'il n'en finit pas d'être, l'essence même du monstre méchant et mortel, les 3 M de l'efficacité symbolique et thématique de notre épisode. Tout est légendaire dans ce film, qui est une adaptation de roman, du scénario de Dan O'Bannon à la performance des acteurs jusqu'à l'efficacité de la réalisation lors des apparitions du monstre. Pour ce qui est de la musique, c'est le formidable Jerry Goldsmith qui s'y colle. La bande originale sera dirigée par Lionel Newman et interprétée par le National Philharmonic Orchestra d'Angleterre. Pour la petite histoire, Ridley Scott souhaitait à l'origine confier la partition du film à Isao Tomita, compositeur japonais de musique électronique. Mais le président de la Fox imposera, plus qu'il ne recommandera, Goldsmith. Et quel choix de génie ! Cordes stridentes, immensité de l'espace, mystère, Goldsmith arrive à faire monter l'intrigue, à faire sursauter, à rester classique dans l'écriture sitôt qu'une occasion se présente, et à reprendre ses thèmes de l'espace et de la menace avec une conduction mélodique digne des plus grands. Pour son travail, il se verra nominé aux Golden Globes, Emmy Awards et BAFTA. Voici sous sa direction le titre principal. Souvenez-vous, dans l'espace, personne ne vous entendra crier.
Mm.
Les films de monstres étaient très à la mode dans les années 40-50, mais le genre va rapidement s'essouffler par la suite pour tomber dans les séries B, voire Z. Mais je vous ai dit que les années 2000 furent prolifiques pour le retour des monstres. Aussi, voici un film authentique de monstres qui réécrit l'histoire d'un personnage fameux qui en combattit une certaine catégorie. Van Helsing, fameux adversaire du comte Dracula. Dans ce film de Stephen Sommers, sorti en 2004, il est interprété par Hugh Jackman et missionné par un ordre secret du Vatican pour combattre tous les monstres. On y croise donc le Dr Jekyll, des loups-garous, des vampires, évidemment, et même Frankenstein. Ce melting pot, ou cette réunion de caricatures, je vous laisse juger, donne lieu à un film très brouillon qui ne fera pas grand succès. Mais à la partition, c'est le grand Alan Silvestri qu'on viendra tout de même chercher. Le père des musiques de la trilogie Retour vers le futur et des films Marvel Avengers. Oui, celui-là même. Silvestri n'a pas son pareil pour se glisser dans l'esthétique d'un genre et y rester lui-même. Ce qu'il va faire dans ce film, qui avait pourtant de grandes ambitions afin de s'installer en tant que licence. Bref, Silvestri respecte à merveille les codes du film d'action avec des touches de grandiose et de monumentale partie, car après tout, des titans se combattent et se déchirent dans ce long métrage qui transforme la Transylvanie en ring de boxe pour toutes les légendes monstrueuses de la période victorienne. Voici la bataille finale, illustrée musicalement par Alan Silvestri donc pour le film Van Helsing de 2004. Arrière, démon!
Thank you.
Nos amis anglo-saxons ont du goût pour les histoires de monstres. En voici une qui traite d'une belle conversion de méchant en gentil, notamment au moment de Noël, ce qui ravit encore plus nos amis anglo-saxons. Pour parler du monstre qui va suivre, je dois évoquer un auteur pour enfants qu'on connaît peu en Europe, mais particulièrement célèbre pour les lecteurs anglophones. Théodore Seuss Geisel, dit le docteur Seuss Husseuse. Éteint en 1991, c'est un très célèbre auteur pour enfants, caricaturiste, politique et également animateur américain. On lui doit les best-sellers du chat chapoté, le grincheux qui voulait gâcher Noël, le Lorax ou encore Orton entend un chou. Indiquons encore que le Dr Seuss est si célèbre aux États-Unis que sa date d'anniversaire, le 2 mars, a été adoptée comme date annuelle de la journée nationale de lecture par la National Education Association. Et si je vous parle de cela, c'est parce que son personnage, le Grinch, est une figure typique du genre de monstre qu'adorent les enfants. Ce qu'il faut de comportement comique, ce qu'il faut de méchanceté et pas trop d'éléments effrayants. Bref, dans cette histoire, la préparation de Noël bat son plein dans la petite ville de Chouville. Tous les habitants frémissent de bonheur à l'approche de la grande fête, sauf, eh bien, le Grincheux, créature verte et recouverte de poils, bien décidé à gâcher les festivités depuis qu'il a été forcé à l'exil. Et si cette histoire a été adaptée à l'écran à 3 reprises, la plus réussie à mon sens est celle de 2000, décidément décennie des monstres, avec le merveilleux Jim Carrey dans le rôle de la créature, génial et hilarant à souhait. Ron Howard réalisera le film et ce sera James Horner, encore lui, à la baguette. Multi-oscarisé, Golden Globé, baftaïsé, si James Horner n'en est plus à des galops d'essai, il réalise pour le Grinch un très très beau travail presque cartoonesque pour coller à l'esthétique innocente et enfantine du conte. Tous les effets visuels sont excellemment accompagnés par la partition et on s'attend à tout moment à se faire surprendre par des orchestrations comiques quand le Grinch excelle dans ses facéties. Pour avoir vu le long métrage à sa sortie au cinéma, j'ai choisi de vous faire entendre la musique de la scène d'introduction. Avec l'exposition de la ville des choux, leur passion presque aberrante pour Noël que nous finirions presque nous aussi par détester, et la présentation du mystérieux et terrible Grinch, un pur bonheur qu'on écoute maintenant. Allez, attaquons-nous maintenant à un monstre bien connu qui lui fait le contraire de mon extrait précédent. Il subit une conversion de normal vers monstrueux, vorace et incapable de combattre sa nature monstrueuse. Le film Wolfman sera un cuisant échec, et je n'y vois pas un hasard quand, en 2010, s'essoufflera la mode des monstres. Pour autant, ce film est un audacieux remake du film de 1941 traitant lui aussi du mythe du loup-garou, le monstre par excellence. Historiquement trouble en France par exemple, où l'on croyait durant quelques siècles qu'une bête mi-homme mi-loup s'attaquait aux villageois du Gévaudan. Le loup-garou est un archétype du monstre qui compte à sa disposition un nombre non négligeable d'adaptations. Dans celle-ci, on peut voir à l'écran les géniaux Benicio del Toro dans le rôle titre ainsi qu'Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, qui, je vous le signale, est lui aussi un célèbre interprète de Van Helsing, par ailleurs, dans le Dracula de Coppola. Et on peut voir aussi Hugo Weaving, que vous connaissez aussi, par exemple, dans l'agent Smith de Matrix ou l'elfe Elrond dans Tolkien. Il faut mettre l'échec du film Wolfman également sur les épaules des difficultés de la production, celles qu'elle a connues, passant de Mark Romanek à Joe Johnston pour la réalisation par exemple. Étrangement d'ailleurs, il en sera de même pour la musique de Danny Elfman, passant de lui-même, Danny Elfman, le papa des musiques de Tim Burton, à Paul Haslinger, puis de nouveau à Elfman, étrangement, juste un mois avant la sortie du film. La production jugeant que la musique électronique du second était inadaptée. Pour autant, Danny Elfman, eh bien c'est Danny Elfman. Son univers gothique colle merveilleusement au thème de la part sombre de l'homme, le loup-garou. La menace du monstre est partout, dans ses violons acides, dans les harmonies tendues et proches de l'atonalité, aux effets d'orchestre très efficaces pour susciter la peur sourde. Nous écouterons la Wolf Suite dans son intégralité pour clôturer notre petit tour musical des monstres. Prenez garde à la pleine lune, chers amis. Thank you. Voici qui achève notre épisode des manettes à la baguette qui était dédié au très malin Grégoire qui, je le sais, triomphe de tous les monstres avec brio. Quant à moi, il vous reste à vous souhaiter de prendre le temps d'écouter de la musique ainsi que de jouer et surtout, surtout, de faire les deux en même temps.